Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Alors aujourd'hui, on va accueillir dans quelques instants Martial Portail, alors qu'il y a plus d'une corde à son arc, on va voir, hein. Il a fait de la radio, il va nous en parler. Il fait de la vidéo, il s'occupe également de l'association Agrivap, donc il a beaucoup de choses à nous dire, et on le retrouve dans quelques instants.
Elves, pretty dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife as Mac he dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's Mac he dear? So there's not a trace.
Voilà, et bien tout de suite, on va accueillir Martial Portail. Martial, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors Martial, c'est vrai que pour toi, la radio, c'est pas une inconnue, hein, puisque tu as été sur RVA une époque.
Eh bien oui, au tout début, dans les années 80, et j'ai eu la chance de vivre cette aventure de la création des radios de la bande FM. C'était une aventure un peu par hasard, quoi, en fait.
Ouais.
Et puis bon, c'était le bon moment, c'était un peu la fenêtre météo qui nous a permis de vivre ça. Et puis ça m'a donné le virus, quoi. Comme beaucoup, hein.
Et t'as fait longtemps lors de la radio, t'en as fait assez.
Eh bien, en fait, j'ai calculé que j'en ai fait pendant 32 ans.
Ah,
alors, au début, c'était un hobby, c'était un loisir.
Ouais.
Et j'ai fait de la radio pendant très longtemps avec RVA. Je suis parti vivre en région parisienne, j'ai fait d'autres métiers. Mais j'ai continué à faire de la radio avec eux. Je renvoyais des cassettes sur des émissions musicales. Et puis quand je suis revenu au pays, ben, j'ai bossé de manière un peu plus effective, j'ai monté une entreprise et j'ai travaillé de manière un peu plus effective avec eux, avec vraiment de l'antenne, avec le service commercial, enfin, ça devenait un petit peu plus professionnel, on va dire, quoi.
D'accord.
Et puis de fil en aiguille, j'ai lancé un petit journal, le journal d'annonce gratuite Le Copain, qui existe toujours. Et en même temps, en parallèle, j'avais arrêté ma collaboration avec RVA. Et puis du coup, j'ai commencé à faire des remplacements sur le réseau France Bleu de Radio France, à Clermont-Ferrand. Et puis ça a pris de l'ampleur, ça a bien fonctionné. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la radio sur plusieurs stations, puisqu'à Radio France, le principe, ben, c'est un peu de faire un apprentissage, d'apprendre son métier comme ça sur le réseau. Donc j'ai bossé pendant longtemps à France Bleu, à Pays d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, et puis ensuite à Châteauroux, ensuite à Laval, à Perpignan. Ah oui, j'ai vu du pays, oui. Mais c'était super intéressant. C'était leur volonté à Radio France, c'est justement qu'on arrive dans des régions que l'on ne connaît pas, et puis qu'on puisse faire jouer notre curiosité, puisse aller à la rencontre des gens, découvrir des choses que l'on ne connaît pas, et puis de retranscrire tout ça à l'antenne.
Ouais, t'avais pas une émission de prédilection, c'était la recherche de sujets.
Oui, c'est-à-dire qu'après Radio France, en fonction de l'horaire sur lequel on nous met, bon, bien sûr, on fait soit la matinale, soit après des émissions plus économiques en cours de matinée, ou des jeux, ou des choses comme ça. Ça dépend un petit peu de l'horaire sur lequel on est placé, quoi.
D'accord.
Et puis ensuite, j'ai eu un poste définitif à France Bleu Creuse, à Guéret. Ça m'a permis de découvrir la Creuse, que je ne connaissais absolument pas. Et j'y suis resté 10 ans là-bas.
Ah, mais quand même. Hein.
Ouais.
Ah oui, mais tu as quand même fait beaucoup de radio. Quoi.
Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai mis longtemps avant de comprendre que ça pouvait être un métier.
Oui. Enfin,
que ça pouvait être mon métier.
Et c'est compliqué quand même, il faut le dire aussi.
Oui, c'est ça. Puis j'avais toujours vu comme un loisir. Et mon regret peut-être, c'est à l'époque où je vivais en région parisienne, j'aurais peut-être dû aller taper à la porte de Radio France à ce moment-là, la maison de la radio, ça aurait peut-être été autre chose. Mais en tout cas, bon, je ne regrette rien, ça a été vraiment très intéressant, et puis d'une grande richesse, parce que la radio, Jean-Pierre, t'es bien placé pour le savoir, c'est la rencontre avec les autres.
Voilà,
c'est
ce que je disais
à
Corinne et à Vincent qui viennent de nous quitter, c'est ça, la radio c'est fait de rencontres, et on découvre des gens qu'on côtoie des fois tous les jours. Puis un jour, tiens, il nous dit, je fais ça. Alors qu'on est à 100 lieues de savoir.
C'est vrai.
Et c'est ce qui est intéressant, quoi.
Bien sûr. Hein, moi, j'ai toujours été très, très curieux.
Il faut être curieux.
Et ouais, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à des jeunes qui auraient envie de travailler dans les médias. Le premier réflexe à avoir, c'est d'être curieux et de ne pas hésiter à aller voir les gens, leur poser des questions et... Moi, c'était mon principe lorsque je faisais des interviews, c'est d'ouvrir le micro et ne pas te préparer à l'avance, puis dire aux gens, qui êtes-vous et que faites-vous
Non, mais c'est bien, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, parce que moi, je fais beaucoup d'auteurs et je leur dis, moi, j'ai jamais lu, enfin, jamais, J'ai jamais lu un livre avant parce que je veux le découvrir avec l'auteur.
Bien sûr.
Et finalement, ça marche toujours très bien parce qu'on se pose des questions que si on arrive avec le seul livre que j'ai lu, j'ai été très mauvais dans l'interview. Moi, je me suis focalisé sur certaines choses.
Et oui.
Alors qu'en posant des questions à l'auteur, on découvre le livre et puis on parle d'autres de
bien
plein
sûr.
De choses. Quoi.
Bien sûr. Voilà. La radio, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est on écoute la vie en fait, on discute simplement et on découvre l'autre.
Alors bon, la radio, mais alors finalement, ça a été une grande partie de ta carrière, la radio.
Oui, ça a été une bonne partie de ma carrière, et puis pendant 10 ans à Guéret, et puis il y a quelques années, là en 2018, je faisais les allers-retours tous les week-ends pour revenir voir les enfants ici, donc c'était un petit peu pénible ça, oui.
Ouais.
Et puis il faut reconnaître que la radio, Radio France avait changé, ça devenait de plus en plus formaté quelque part, donc c'était plus vraiment la radio que j'avais connue avant. Donc j'ai voulu changer un peu de braquet et je suis revenu au pays, je suis revenu m'installer en région d'Ambert. Et puis là, un nouveau projet est né, je me suis dit, bon, je connais bien les médias, j'aime ce que je fais, donc il faut que j'essaie de poursuivre dans cette lignée-là. Et étant originaire du livre d'Orforez et que je m'étais rendu compte quand même depuis longtemps que c'était un secteur géographique dont les grands médias parlaient peu, puisqu'on reste encore méconnu. Donc je me suis dit, allez, on va prendre notre communication en main et je vais créer quelque chose. Et donc je me suis parti dans la vidéo cette fois-ci et j'ai monté, alors c'est un peu pompeux de dire une chaîne de télé, je l'ai appelée Télé Livre d'Orforez Reportage.
Bah, c'est sur YouTube.
Voilà, c'est sur YouTube, c'est une chaîne de vidéo sur YouTube, puisqu'aujourd'hui Internet nous permet de faire justement pas mal de choses. Et j'ai monté une entreprise de reportage vidéo en 2022 et qui fonctionne bien, qui me permet de parler du livre d'Orforez sous tous ses aspects, hein, aussi bien le tourisme, le patrimoine, la vie des entreprises aussi, les recettes de cuisine. Enfin, il y a plein de choses à montrer un livre d'Orforez.
Donc tu fais des... tu as des commandes, par exemple une entreprise qui te dit « venez me faire une vidéo pour me... » Pour faire connaître.
Bien sûr, ça peut être ça, puisque aujourd'hui, justement, Internet, on le voit, la vidéo, c'est un support incontournable aujourd'hui pour se faire connaître, pour faire parler de soi. Donc, pour une entreprise, bien sûr, c'est un élément fort. Donc, il peut se faire des petites vidéos pour présenter son activité, présenter son savoir-faire. Après, bien sûr, on peut faire des choses qui coûtent très cher avec des entreprises qui viennent de très loin aussi. Mais bon, sur place, on a moyen de faire des reportages qui ne sont pas très chers et qui vont toucher du public, bien sûr. Oui.
Alors bon, c'est compliqué quand même. Il y a du montage, hein, je présume.
Oui.
Hein.
Ouais. Alors, c'est quelque part, il a fallu que j'apprenne la partie vidéo, alors en autodidacte. Mais après, j'ai retrouvé mes réflexes du monde de la radio, puisque ça se ressemble beaucoup, sauf que là, il y a l'image en plus. Mais la partie montage ressemble beaucoup, beaucoup à ce que l'on fait en radio.
Oui.
Là, il faut monter les images en plus. Il y a d'autres contraintes, bien sûr, mais ça ressemble beaucoup quand même, oui.
Alors tu fais tout seul, donc
Oui, je suis entièrement tout seul.
D'accord. Tu fais comme de Maximi.
Oui, c'est ça. Ben, un petit peu. Alors, c'est assez rigolo parce que j'ai acheté une caméra pour me lancer dans la vidéo. Et puis, dans mon idée, je suivais un petit peu ce que j'aime bien voir en vidéo, des émissions du style Faut pas rêver, sur France 3, des choses comme ça. J'aime bien ces émissions, donc j'ai commencé à filmer un peu dans ce style-là. Et puis, on se rend compte que sur Internet, il faut intéresser aussi des générations plus jeunes. Et donc, j'expérimente des façons de tourner différentes. Alors, un peu comme Antoine de Maximi, justement, avec des petites caméras au bout d'une perche qui me regardent. Et je vois effectivement que cette façon de filmer fonctionne très bien. Et on a plus de vues en filmant comme ça qu'en filmant de manière traditionnelle. C'est assez curieux.
Alors, tu sais peut-être pas que la famille de Maximi est quand même originaire de Craponne.
Ah, je ne savais pas.
Voilà.
Ah, ça fait plaisir, ça me fait un point commun avec lui parce que je suis né à Craponne, moi aussi.
Et lui, alors, lui, bon, c'est une génération avant, hein,
mais
il descend de toute la famille Maximi.
D'accord.
Il y avait 5-6 frères et son père, je ne sais plus lequel c'est. Donc ils sont originaires de Craponne.
Mais j'aime beaucoup son travail, il fait des choses très originales. Je trouve très courageux parce que partir comme ça dans des pays lointains, ça doit pas être simple.
C'est un peu space, hein,
C'est sûr. En tout cas, c'est toujours intéressant. Puis une fois de plus, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'expérience humaine, c'est la découverte de l'autre à l'autre bout du monde.
Et donc tu fais t'as beaucoup de demandes et toi, tu fais des sujets à toi, je dirais.
Oui, oui, parce que bah, c'est un peu obligé, disons, pour l'instant, puisque mon activité est récente. Donc, il faut arriver à trouver des clients, entre guillemets, pour faire vivre cette entreprise. Donc, je fais aussi, oui, des reportages à titre d'auteur, on va dire. C'est moi qui les décide sur certains sujets pour me faire connaître. Et puis ensuite, ben, je démarche des entreprises, des institutions en espérant eh ben, développer l'affaire, évidemment. Bon, je suis dans des gammes de tarifs qui sont tout à fait abordables, donc ça va. Ouais. Et en élargissant un petit peu mes activités, bah, il s'est trouvé qu'il y avait l'association ferroviaire Agrivap à Amber qui était en recherche d'un responsable pour s'occuper de la communication, en tout cas sur Internet. Donc ça a été une corde supplémentaire à mon arc, puisque moi j'avais déjà fait de la communication aussi avec mon journal Le Copain. Et du coup, depuis un an, je m'occupe de leur communication sur Internet, sur Facebook, Instagram, parce que ben, là aussi, ça fait partie des médias actuels. Il faut aussi être présent de cette manière-là sur les réseaux.
On en parlera tout à l'heure d'Agrivap. Donc Le Copain t'a abandonné, pourquoi ?
Eh bien, parce que c'était le moment où je devais faire un choix entre soit continuer Le Copain en étant en Berre ou partir de manière plus significative à Radio France. Et donc, j'ai eu ce poste définitif à Guéret. J'ai été titularisé là-bas, donc il a fallu faire un choix. Je ne pouvais pas être partout.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que j'ai revendu Le Copain. Il existe toujours. C'est mon imprimeur qui me l'a racheté, Marc Chambrial. Et du coup, il continue à le faire vivre.
D'accord, oui, donc t'as réussi à le pérenniser.
Oui, oui, exactement. Alors moi, c'est vrai, à l'époque où je l'avais, je faisais peut-être plus de contenu éditorial. J'y mettais, par exemple, des photos de classe anciennes. Voilà, ça marchait très, très, très bien, ça, les gens adoraient. Donc là, bon, il a laissé tomber un peu cette partie-là, c'est devenu un journal d'annonce, simplement.
D'accord, oui, donc toi, tu as... Bah oui, t'es dans un, je dirais, dans un... Ah, je trouve pas mon terme. Un média plus actuel, hein. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la vidéo, il y en a de partout, même les radios font de la télévision.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ce que je dis. Alors, c'est pas trop mon truc, moi, parce que je trouve que quand on filme les émissions de radio, enfin, c'est mon avis, attention, je trouve que ça dénature. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la particularité de la radio, c'est que l'auditeur imagine.
Bien sûr.
Alors qu'il ne voit pas l'animateur.
Je suis d'accord.
Et bon, enfin, moi je dis, où on fait de la télévision, où on fait de la radio, faire un mix. Enfin,
c'est le problème auquel a été confronté Radio France juste à l'époque où j'y étais, justement. C'est qu'aujourd'hui, pour être présent sur Internet, et il faut être présent sur Internet, eh bien, on est tous tentés de faire de la vidéo parce que c'est un support qui fonctionne bien. Mais effectivement, quand je suis parti de Radio France, ils commençaient à mettre ça en place. Ils faisaient de la radio filmée.
Voilà,
mais c'est vrai que ça a un intérêt qui est très limité, parce que mis à part de voir l'invité, de voir la trombine qu'il a, c'est pas génial.
Enfin, moi, c'est pas mon truc. C'est vrai que c'est très facile à faire maintenant. Hein, parce qu'il
oui, bien sûr.
Il y a tellement du matériel... Enfin bon, toi qui es là-dedans, moi j'en ai fait un peu de la vidéo, mais alors moi je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Moi j'ai commencé avec une caméra qui faisait 2,5 kg, le magnétoscope sur le machin. Et alors quand on voit que maintenant on filme avec notre téléphone,
c'est vrai, hein, c'est fou. Hein.
C'est incroyable, et avec de la qualité incroyable.
Ah oui, on arrive à faire des choses absolument incroyables. Moi je pense, parce qu'on a vécu cette évolution technique, et puis depuis les années 80, on a commencé à faire de la radio, on en a vu passer du matériel.
Oui.
Hein.
Oui.
Ça a évolué.
On a commencé à poser le saphir sur le disque.
Oui.
Hein.
J'ai bien connu ça aussi.
Quand tu dis ça aux jeunes, ils disent, qui c'est celui-là?
Donc j'ai bien connu ça. Ouais. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'associer... les bienfaits de chacun des médias pour les faire travailler ensemble. Je pense effectivement que de faire de la radio filmée, ça ne représente pas d'intérêt, mais que la vidéo vienne en complément. Mettons, on traite un sujet à la radio et on veut en savoir plus sur le site internet de la radio. Là, on peut faire une vidéo plus longue, par exemple.
Oui, quand tu vas sur le site, ce n'est pas tout à fait pareil.
Ouais, c'est
ce qu'on appelle un peu le podcast. Donc c'est ce qu'on
fait.
C'est
ça, oui.
Ouais. Donc tu remets, quand tu as une émission qui paraît très intéressante, on ne peut pas tout mettre non plus en podcast. Après, ça ne sert à rien.
Bien sûr.
Donc c'est vrai. Bon, mais alors oui, là, pour parler un peu du matériel, puisqu'on a enclenché là-dessus, c'est vrai qu'on voit maintenant, c'est incroyable ce que c'est devenu. On a miniaturisé incroyable.
Alors ça pose aussi d'autres soucis, hein, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quelque part, tout le monde est journaliste avec son téléphone portable. Attention, il se fait tout et un petit peu n'importe quoi aussi. Donc il faut faire attention, parce qu'il y a des règles à respecter.
Il y a le droit à l'image, attention.
Et bien sûr. Ouais. Et puis après, ça pose la question aussi du côté voyeur. touristes que l'on a en tant qu'être humain aussi. Ouais, ouais. On voit beaucoup de vidéos aujourd'hui où il y a un accident qui se déroule sur la route. On va d'abord penser à filmer avant d'aller porter secours.
Ouais.
Donc, ce n'est pas tellement normal, ça.
Alors, là, c'est sûr, c'est ce que tu... Oui, là, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, moi, je ne connais pas du tout, là. Mais, bon, à part quand on fait une commande. Mais, par exemple, tu vas faire... puisqu'on parle du train... Un reportage sur le train.
Oui, ce que j'ai fait d'ailleurs pour Agrimap avant de travailler pour eux
et
la communication.
Qui va être diffusé pour la com.
Bien sûr, alors ça peut être diffusé pour la com. Et effectivement, après, chaque structure reprend ses vidéos. En fait, le lien qui est sur YouTube, sur ma chaîne, reprend ce lien sur sa propre communication. Et du coup, ça permet de présenter une entreprise, ça permet de présenter une association. Alors les trains, le monde des trains, c'est formidable parce que c'est très photogénique, on va dire. C'est beau un train, on peut filmer, on peut faire plein de choses.
Il y a l'émission des trains pas comme les
autres. Bien sûr, qui est très très bien également. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec les trains. Aujourd'hui, je me suis formé également à la prise de vue aérienne avec un drone.
Ah oui, il y a les drones, maintenant ça il faut en parler. Oui.
Donc j'ai acheté un drone, je me suis formé, je suis allé à l'aéroport à Lyon pour faire la formation théorique. Donc oui, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça aussi, aujourd'hui, un reportage vidéo, et on le voit dans les reportages à la télévision, on a toujours des images de drones parce que c'est magnifique et puis ça donne un autre point de vue que l'on n'a pas autrement. Quoi.
Bah oui, puisque on filme du dessus, donc on peut pas le faire.
Bien sûr.
Leur a pas prendre un avion ou une montgolfière.
C'est ça.
Sinon, on peut pas. Et c'est pas trop compliqué là de.
Alors c'est compliqué.
Puis il faut des autorisations aussi.
Bien sûr, faut y penser parce que c'est le même problème que ce qu'on disait tout à l'heure avec les téléphones portables.
Ouais.
Aujourd'hui, tout le monde peut acheter un drone. Il y en a même en vente dans les magasins de jouets pour les enfants.
Ouais.
Mais l'utilisation est très très réglementée. Alors on va dire que tant que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de souci, parfait. Mais si le drone tombe sur la tête de quelqu'un ou crée un problème, un accident quelque part, là les responsabilités sont engagées. Donc c'est pour ça qu'il y a des formations très drastiques par rapport à ça. Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je suis d'accord, on voit même sur de très, très grandes chaînes de télévision, on voit des tournages faits avec un drone et avec n'importe quoi. On survole du public, par exemple, dans un concert, des choses comme ça, ce qui est strictement interdit.
Ouais.
Mais bon, même les grandes chaînes le font. Donc, l'exemple n'est pas toujours bon.
Oui. Et donc, là aussi, je pensais à matériel. C'est pas très vieux, mais... Qui évolue sans arrêt.
Oui.
Là.
Ah oui, oui. Moi, je suis épaté de la qualité d'image que mon drone produit. Et pourtant, j'en ai un qui fait partie des plus petits de sa génération. Mais c'est incroyable. Et c'est d'une stabilité, mais formidable. Même quand il y a du vent, l'image reste stable. Et du coup, ça donne des points de vue dans des reportages, mais absolument formidables.
Et c'est pas trop compliqué à se servir ?
Non, il faut arriver à comprendre un peu comment le diriger.
Il y a des manettes. Hein.
Oui, c'est un apprentissage en fait à faire là aussi. Mais bon, je sais que les jeunes générations y arrivent très bien parce que du coup, la manette de contrôle ressemble assez à une manette de jeu
vidéo.
Électronique.
Ouais.
Donc, du coup, c'est un peu les mêmes principes de déplacement.
Et ça t'a amené un plus dans ton travail ?
Alors oui, parce que la qualité d'image aujourd'hui, faire de la vidéo sans avoir d'image de drone, y a un manque quelque part. Et puis ça amène une image beaucoup plus professionnelle, bien sûr, et d'autres possibilités aussi de présentation. Alors nous, en plus, on a une chance inouïe, c'est que dans notre région ici, en Livradois-Forez, on a des paysages...
Magnifique.
Grandiose, magnifique, et les montagnes, les landes, tout ça.
Ouais.
Donc oui, c'est quand on prend des images par drone sur ces territoires-là, on en prend plein la vue.
Voilà, aujourd'hui, on reçoit Martial Portail dans notre invité du jeudi. Donc, vous l'avez compris, un homme de radio, quand même.
Oui, à la base.
30 ans de radio à la base, mais pas seulement, puisque maintenant, il s'est lancé dans la vidéo. Alors, c'est un... ça coûte cher, on va parler quand même de tarifs, il faut bien savoir.
Pour faire un reportage vidéo.
Par exemple, quelqu'un, je sais pas, moi je te demande de me faire un reportage vidéo sur la radio, ça va me coûter combien ?
Non, ça coûte pas très cher, c'est pour ça que j'ai voulu faire des tarifs qui soient accessibles pour tout le monde, parce que c'est vrai, quand on s'adresse à une entreprise de Lyon ou de Clermont-Ferrand, ça coûte très 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 cher. Moi, mes premiers reportages de 5 minutes, je les vends 500 euros. Donc c'est tout à fait abordable pour n'importe quelle entreprise. Et en 5 minutes, on a le temps de dire pas mal de choses.
Oui, alors attention, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle, ça. Parce que c'est ce qu'on dit des fois quand on a eu pas mal de reportages sur FR3, sur un peu. Et quand on pense que les derniers qu'on a eus, nous, ils sont arrivés le matin et ils sont repartis le soir pour 5 minutes.
Oui,
C'est incroyable.
Mais c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Hein.
Les gens ne se rendent pas compte.
Oui, oui. C'est beaucoup de travail en arrière-plan.
Et 5 minutes, c'est très long à la télévision.
Oui, tout à fait. Ah ben, prenons l'exemple tout simple d'une publicité à la télévision qui dure 30 secondes en moyenne. Ben, regardez en 30 secondes tout ce qu'ils ont le temps de nous dire et nous montrer. Ça va très vite. Donc c'est vrai, mais ça demande effectivement beaucoup de travail en amont parce qu'il faut prendre un maximum d'images pour être sûr d'en avoir assez et d'avoir les plans que l'on veut. Et puis après, c'est beaucoup de travail au niveau du montage. Moi, j'aimerais voir un jour un vrai cinéaste qui monte un film, un long métrage, parce que ça doit être quelque chose. Il doit s'arracher les cheveux.
Ah, oui.
Parce que quand je vois, moi, déjà pour des reportages entre 15 et 20 minutes, ce que je fais habituellement, déjà ça prend un temps infini. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut retravailler. Il y a beaucoup de choses, la lumière, la couleur, il y a beaucoup de choses qui peuvent être affinées, on va dire. Donc ça demande beaucoup de temps, c'est vrai. Ah, ouais.
Oui, donc c'est pour avoir. Alors bon, par exemple, on veut te contacter, on fait comment ?
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet, TLF Reportage, avec un sareportage.fr, et là on voit tout, donc on voit mes vidéos, on voit pas mal d'autres choses, parce que ça me tenait à cœur de travailler aussi dans un sens patrimonial. Parce que justement, je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais fait en radio pendant 30 ans, aujourd'hui, il n'en restait pas grand-chose, parce que la radio, c'est l'art de l'éphémère, quelque part.
Exactement.
Nos ondes, nos émissions, elles partent dans les airs, et puis une fois qu'on les a écoutées, elles ne sont plus là. La vidéo, elle reste. Et moi, ça m'a beaucoup plu, cet aspect-là, parce que je me suis dit, je travaille aussi pour le futur, et mes vidéos, dans 10, 20, 30 ans, on pourra les voir encore, si on veut.
Ouais.
Et d'autant plus qu'elles sont sur des plateformes Internet, sur la fameuse plateforme YouTube. Et avec un ami, Éric Boyer, pour ne pas le nommer, qui te salue d'ailleurs au passage, je te dis, qui avait fait de la radio aussi avec moi, on a retrouvé des vidéos qui datent des années 80, qu'une personne a bien voulu nous prêter et qu'il a numérisé et qu'on a mis donc sur mon site internet.
D'accord.
Et c'est très intéressant de voir des reportages vidéo des années 80 dans une page patrimoine, avec la technique de l'époque aussi.
Ouais.
Hein, c'était moins beau qu'aujourd'hui, on va dire, techniquement. Mais au moins, ça a valeur de témoignage. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de collectage, parce que sur ces vidéos, on va voir des gens qui n'existent plus aujourd'hui, qui avaient un savoir-faire aussi qui n'existe plus. Moi, je trouve ça génial. C'est comme si on participait à une espèce d'encyclopédie locale de ce qui a existé. Et ça me plaît beaucoup.
Oui, j'ai connu un peu ça, moi, parce que je pense en entendu parler du Greta au Puy-en-Velay.
Oui.
Et à une époque, il m'avait demandé, j'avais fait pas mal de... Ils cherchaient quelqu'un pour animer. Alors, on a fait des trucs super, sur le patois, sur la tuaille, sur... Et c'est des choses que les jeunes, ils connaissent absolument pas. Hein, et ça va rester dans les annales, ça. Parce que
bien sûr.
Dans des années, on dira, tiens, la Haute-Loire, c'était comme ça dans le temps. C'était...
Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'avenir, on parle beaucoup de technologie à la pointe aujourd'hui. Mais je pense qu'on a toujours besoin de savoir où sont nos racines, de savoir d'où on vient, de savoir comment ça se passait autrefois, parce que c'est ça qui fait aussi le chemin, quoi, quelque part. Donc c'est avec nos médias, mais même la radio, c'est pareil, on peut faire aussi du collectage en radio,
aussi,
en enregistrant des gens qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc c'est très intéressant, je trouve, tout ça. Ça donne une image de notre pays qui est complète.
Alors, beaucoup de travail ?
Eh bien, du travail, oui, il y en a beaucoup. Ça se développe aussi sur la partie communication, puisque en travaillant avec Agrivap, j'ai pu rentrer un petit peu dans le domaine ferroviaire de notre région. Là aussi, il y a des choses à faire. Il y a un avenir à développer, qui est compliqué parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais on a un potentiel dans notre région
qui est énorme. On va faire une petite pause musicale et on va en parler, justement, parce que on est tous concernés. Hein,
bien sûr.
Le côté de la Haute-Loire aussi. Eh bien, on va écouter... je ne connaissais pas ça. Mais pour le petit train de Rita Mitsuko.
Ah oui.
Chemin.
Voilà, eh bien, on va retrouver Martial Portail. Ah, il nous a parlé de son passage à la radio, maintenant de son entreprise où il fait de la vidéo. Et puis, on va parler un peu d'Agrivap, hein, du train.
Et oui.
Parce que, bon, on sait que de notre côté, il y a le chemin du Haut-Forêt. On sait qu'il y a des problèmes, puisqu'avant, on pouvait aller jusqu'à la Chaise-Dieu et on ne peut plus, pour des raisons de voie. Hein. Donc... peut-être qu'il y a un projet là qui peut se mutualiser.
Oui, ben ça bouge beaucoup parce que au niveau ferroviaire, on a la chance d'avoir ici dans notre région le deuxième réseau ferré le plus grand après celui de la SNCF. Mais celui-ci, il est privé. Il appartient donc au syndicat ferroviaire du Lurodon-Forez, qui représente toutes les communes qui sont traversées par cette voie.
Oui.
C'est 140 km de voie quand même, hein, entre Pont-d'Or et Darsac. Et puis l'autre branche jusqu'à Estivareil.
Quand même, ouais.
Oh, oui, c'est énorme. Il y a très peu de réseaux comme ça en France où on peut faire du train touristique. Mais bon, bien sûr, ça nécessite beaucoup de travaux, beaucoup d'entretien. Alors, j'ai un mini scoop. Sachez que la partie Craponne, La Chaise-Dieu va être mise en service. Ça fait partie des priorités du syndicat pour remettre cette voie en service de manière à ce que le CFHF puisse rouler jusqu'à La Chaise-Dieu.
Oui. Oui, c'est important.
Bien sûr, et puis c'est l'intérêt aussi touristique d'amener les gens jusqu'à Chaise-Dieu. Aussi intérêt que les deux associations Agrivap et CFHF puissent se croiser là-haut, se retrouver. Et en fait, après, oui, il y a plein de possibilités de développement, mais qui nécessiteront, et d'une part, l'engagement des politiques, et puis il faut trouver de l'argent pour le faire.
Oui, ouais, alors bien sûr, ça, on va y revenir. Hein, ça a été un peu le point noir de la SNCF, hein, puisqu'ils ont fermé beaucoup de... détruit beaucoup. Alors, on le voit, puisque nous, on est bien placés. Hein.
Et oui.
Puisque, en fait, à l'époque, quand les voies seraient été Estivareil, il y avait deux directions.
Et oui.
Il y avait la direction Rhône-Alpes et la direction Auvergne. Le directeur Rhône-Alpes a dit on enlève les voies, le directeur Auvergne a dit non, heureusement.
Heureusement.
Mais c'est un petit peu dommage parce qu'on se rend compte que maintenant.
Bien sûr.
Bien sûr. Alors, on a un pays qui n'est pas très loin de chez nous et qui a un exemple, c'est la Suisse, où ils ont un réseau ferroviaire magnifique.
Ouais. Ah oui,
ils sont des passionnés de train.
Bien sûr. Mais quand la SNCF a stoppé les circulations commerciales dans notre secteur ici, il faut savoir que le viaduc de Pont-Tempéra en est passé à deux doigts.
Ah oui, ils sont passés à deux doigts.
Ils avaient déjà commencé à le miner, ils devaient faire sauter. Et puis et là, il y a eu mobilisation et de la population et de beaucoup de gens. Et heureusement, il a été sauvé. Heureusement. Heureusement. Et ce patrimoine-là, il est monumental, parce que quand on voit tout ce qui a été construit, les viaducs, les ponts, les tunnels, les gares aussi, tous ces bâtiments, il faut qu'on sauve ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, en ce moment, avec le réchauffement climatique et tout ce qui se passe, eh bien, le chemin de fer revient un petit peu en odeur de sainteté. Et on se dit que peut-être on pourrait redévelopper des choses. Et pourquoi pas ? C'est vrai, on pourrait, pourquoi pas, alors remettre en place un service voyageur comme il existait du temps de la SNCF. Je ne crois pas que ce soit très réaliste. On n'y arrivera pas. Mais après, qu'on puisse mettre en place d'autres services. Imaginons, par exemple, un train des services avec un cabinet médical à bord qui pourrait être un jour à Craponne, un jour à La Chaise-Dieu, à Arlan.
Ouais.
Pourquoi pas ? Ça pourrait se faire. Ça se fait dans d'autres régions, dans des bus. Ça peut tout à fait se faire dans un train. Il y a des choses à développer comme ça. Et puis, bien sûr, l'aspect touristique. Puisque là, au niveau tourisme, on a plein de choses à montrer. Mais là aussi, il faut se remettre en question. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du tourisme ferroviaire comme on le faisait il y a 20 ans en arrière. Avant, les gens étaient contents de prendre le train pour se promener en train. Aujourd'hui, s'il n'y a pas un but de visite, une animation ou quelque chose, ça marche moins. Donc, il faut aussi développer ça.
Oui, mais c'est ce qu'on disait. Bon, j'avais participé à la journée, là...
le 23 septembre.
Ouais. Et donc, c'est vrai, je crois que maintenant, alors on est dans cette société comme ça, il faut du tout compris.
Oui.
C'est-à-dire que quelqu'un qui vient dans notre région dit ben voilà, vous allez passer 8 jours dans la région, au Clouard, puis Dôme, ça n'a pas une grosse importance, mais on vous propose ça. Vous pourrez prendre le train touristique pour aller à Chaise-Dieu. Peut-être après, vous pourrez partir d'Ambert pour aller, comme on a fait à.
La Chaise-Dieu ou à Estivareil, après si.
Oui, non, mais je dis de La Chaise-Dieu, tu peux monter où on a été l'autre fois, je ne me rappelle plus déjà.
À Saint-Sauveur-la-Sagne.
À Saint-Sauveur-la-Sagne, oui. Il y a plein de machins. Et c'est très différent au niveau des.
Bien sûr.
Et puis de l'autre côté, parce que ça part aussi sur Courpierre.
Bien sûr, on peut aller au nord jusqu'à Pont-d'Or, puisqu'après c'est la voie SNCF, mais jusqu'à Pont-d'Or, c'est le même syndicat.
Et alors, j'avais entendu dire, parce qu'il y en a une qui est toujours. Qui n'est pas détruite, qui pourrait repartir peut-être, c'est celle de Darsac au Puy.
Oui, alors. Darsac-le-Puy, par contre, il y a des circulations SNCF.
Donc,
là, on peut aller jusqu'à Darsac. Mais faire Darsac-le-Puy avec un train touristique, ça,
c'est
ça sera très compliqué.
Ouais.
Mais par contre, de Darsac à La Chaise-Dieu, oui, ça serait faisable.
Ouais.
Mais par contre, là, ça nécessitera de gros, gros travaux. Parce que pour le coup, c'est une partie de voie qui n'a pas circulé depuis 30 ans. Donc, faut être réaliste, ça coûte de l'argent. Mais on a un vrai potentiel. Il y a vraiment des choses à faire. Tout à l'heure, on parlait de l'importance d'Internet aujourd'hui,
oui.
D'autant plus en matière touristique. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient, je sais pas, du nord de la France, qui veut venir passer ses vacances en Auvergne, son premier réflexe sera d'aller sur Internet pour voir ce qu'il y a à faire.
Exactement.
Et de ce côté-là, en termes de communication, on a beaucoup à faire aussi, parce qu'il faut arriver à présenter l'entité ferroviaire, tout ce que l'on peut faire au niveau ferroviaire chez nous, mettre en place des produits touristiques adaptés à ce que les gens cherchent aujourd'hui. Mais on a tous les outils pour le faire. Il faudra trouver ensuite l'argent et puis la force humaine pour arriver à transformer tout ça en véritable produit pour le futur. Mais d'autres régions y arrivent très bien, donc il n'y a aucune raison que nous, on n'y arrive pas. On a tous les atouts pour le faire. En plus, on a géographiquement une belle région.
Oui.
Donc, il y a plein de gens qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément envie d'aller sur la Côte d'Azur au mois d'août. Ils préfèrent être ici au frais.
Oui.
Donc, oui, il y a vraiment des choses à faire.
Oui, puis on a vu, il y a quelque chose qui se développe beaucoup, c'est le vélo rail.
Aussi, bien sûr.
Qui a beaucoup pris. Hein, oui.
Ben, on a la chance d'en avoir deux ici, hein, en fait.
Oui.
On en a un au nord d'Ambert, justement, entre Ambert et presque Vertolaye. Et puis, il y en a un autre du côté d'Alègre.
Alègre, oui, qui est électrique, là.
Alors, ceux-là, ils ont une assistance électrique. Ouais, ils ont de la chance.
Oui, mais, bon, oui, mais enfin... En général, où ça se passe, c'est assez plat. Quoi.
Oui, en général, les
de toute façon, je crois, on va pas dire de bêtises, parce que moi, je suis pas du tout dans le train, mais je crois que les voies peuvent pas monter de plus de 3%.
Oui, c'est ça. Alors, on est sur, mettons, prend en compte la partie Arlan-Lachaise-Dieu, ça fait partie des voies de chemin de fer du Massif central qui est une des plus ardues. Il y a un gros pourcentage de dénivelé. Mais effectivement, pour faire monter les trains, on ne peut pas les faire monter à pic. Donc, il y avait toujours des courbes. Toujours
voilà, c'est
façon,
pour ça qu'il y a des courbes. Ouais.
Mais enfin, bon, s'il fallait faire vélo-rail à Arlan-Lachaise-Dieu, je pensais pas beaucoup qui arriveraient à Lachaise-Dieu.
Oui, d'accord. Oui, mais ça, c'est un truc qui s'est développé aussi.
Oui,
c'est...
oui.
Puis on peut le faire en famille.
Oui. Voilà, et alors, justement, tu as touché le mot juste. Et ça montre bien qu'au niveau du tourisme ferroviaire, tout le monde ne vient pas pour la même raison.
Voilà.
Il y a, bien sûr, les passionnés de train qui viennent pour prendre tel autorail, mais ceux-là vont représenter une infime partie. Après, il va y avoir les familles qui, eux, cherchent une activité. Alors, ça peut être le vélo-rail, mais ça pourrait être de l'acrobranche ou autre chose.
Ouais.
Donc là, eux, ils viennent faire une activité en famille. Après, le fait que ce soit sur telle voie, historiquement, ça les intéresse moins.
D'accord. Oui, non, mais c'est vrai que cette histoire, on en parle, parce que le vélo-rail, c'est vrai que ça est développé.
Bien
hein.
sûr.
Il y en a sur... en Haut-Langogne, je crois, je ne sais plus. Pradel, il me semble qu'ils en ont aussi. Et oui, c'est une des parties qui... Mais on parle aussi beaucoup de ce qu'on peut faire avec le train. On le voit, ben, train du Père Noël, il faut qu'on
bien
en
sûr,
parle.
Bien sûr, train du Père Noël. Ah oui, parce que là, Agrivab va faire deux trains du Père Noël les 10 et 17 décembre.
Ouais.
Donc les enfants vont monter à bord des autorails, partir chercher le Père Noël quelque part le long de la voie et le ramener en gare d'Ambert. Et ensuite, il y a le goûter avec le Père Noël. Le CFHF à Estivareil fait la même chose aussi.
Oui, c'est magique. Hein.
Et c'est
pour
magique,
les enfants, c'est magique.
Ah oui, les enfants adorent ça. Retrouver le Père Noël et puis voyager avec lui dans le train, cet émerveillement des enfants, il est toujours... Ah ouais, ça fait chaud au cœur et puis c'est une vraie récompense pour le coup.
Oui, non, mais c'est vrai que des idées, c'est pas les idées qui manquent, hein, bien sûr, c'est le principal, hein, c'est l'argent, parce que sinon les idées, on en a, hein,
oui.
Tout le monde en a. Hein. Et on voit bien, puisqu'il y a les trains aussi avec la restauration à bord.
Oui, ça, c'est quelque chose qui marche très
ça,
bien.
Ça marche pas mal, hein, je vois qu'ils le font pour la Trifol.
Oui,
ils
le CFHF a beaucoup de succès avec ça,
ouais.
C'est quelque chose qui marche très bien. Et puis bon, en France, on aime bien manger, donc
ouais.
C'est vrai que dès qu'il y a un casse-croûte quelque part, ça fonctionne.
On peut allier les deux. Moi, je me rappelle, on avait fait, alors ça remonte, hein, peut-être bien une quinzaine d'années, on avait fait avec les Toques d'Auvergne.
Oui.
On était parti de Langeac et on était monté jusqu'à Langogne.
Et oui.
Ouais.
Mais ça marche bien. Puis en plus, dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose... on a tous envie, un jour, de pouvoir faire le trajet de l'Orient Express dans un train de luxe.
Ah ouais, ouais, bah
bon,
alors
ça
là.
Coûte très cher,
ouais.
c'est autre chose. Mais en tout cas, ça reste
ouais.
dans l'imaginaire collectif. Avec les feuilletons d'Hercule Poirot, tout ça, on a envie de revivre un peu
c'est
cette
vrai.
Époque-là, cette magie-là.
Ouais.
Donc ouais, il y a des choses à faire au niveau restauration à bord d'un train, ça c'est sûr. Oui.
Mais alors, bon, les trains, puis aussi les trains, il faut les tenir, il faut les restaurer.
Oui,
c'est ça,
sûr.
C'est pas trop compliqué.
Si, c'est compliqué. Et puis, il faut avoir des volontaires, des bénévoles. Donc, ça, c'est toujours aussi un peu compliqué d'avoir des gens qui s'engagent sur le temps long pour réparer des autorails. On va dire que la priorité des priorités pour l'ensemble de l'activité ferroviaire de notre région, c'est d'arriver à garder la ligne. Ça, absolument, parce qu'il y a des fois des projets de dire on enlève les rails, on va mettre des VTT à la place.
Ouais.
Si on fait ça, c'est mort.
Ah bah c'est
On ne pourra plus
terminé.
faire rouler le train, on n'aura pas l'argent nécessaire pour
Ouais.
remettre des rails sur la voie.
Ouais.
Donc on l'a, cette voie, elle existe. Elle n'est pas en super état, elle demande à
Ah
avoir des
bah
moyens,
c'est
bien
normal,
sûr.
hein, c'est comme tout,
Mais
hein.
oui, il y a moyen de faire quelque chose à l'avenir. Il faut absolument la garder et il faut qu'il y ait des activités sur ces rails pour justement justifier le fait qu'on a besoin de garder cette voie. Mais il y a des volontés, il y a une prise de conscience générale en ce moment qu'il faut faire les choses et qu'il y a moyen parce qu'on a vraiment les outils là sous la main. Après, il va falloir s'organiser pour trouver des moyens pour faire vivre tous ces projets. Mais oui, en plus, même au niveau des matériels, si on parle d'eux, on a la chance d'avoir des matériels anciens qui sont des années 60. Agrivap, par exemple, a les derniers autorails panoramiques
Ouais.
du monde entier, ils sont tous là, ils sont tous en Amber.
Ah, c'est vrai?
Il en reste trois et ils sont
Ouais.
tous là. Mais
D'accord.
il n'y en a qu'un qui roule parce que les autres nécessitent de gros travaux, ce seront des projets longs à mettre en place. Mais on a ça, on a tout ça sous la main, donc. Faut espérer qu'un jour ou l'autre, eh bien, on arrive à recréer une dynamique. Mais bon, en ce moment, ça bouge beaucoup entre toutes ces entités, les associations qui sont donc les exploitants de la voie, le CFHF, Agrivap, et puis le syndicat ferroviaire qui, avec toutes les communes
Ouais.
qui en font partie, ont envie de bouger pour faire quelque chose pour cette voie de chemin de fer, bien sûr.
Et justement, peut-être en profiter, puisqu'il y a eu un sondage qui est sorti et on nous a dit que la Haute-Loire était la deuxième destination touristique de France.
Eh oui.
Donc, il faut quand même
Bien sûr.
jouer là-dessus, hein, parce
Mais
que
bien
ça veut
sûr.
dire qu'il y a du monde qui vient.
Ah oui, complètement. Et je pense qu'il faudra à ces projets-là y associer la population aussi, parce que c'est un petit peu notre problème en Auvergne, c'est que, enfin en tout cas, dans cette partie-là de l'Auvergne, on va
Oui,
dire, parce qu'il y en a qui savent mieux se vendre que nous, mais c'est que nous, on n'a pas forcément toujours cru en nos capacités.
voilà.
On se dit, ouais, oh, le tourisme, oui, peut-être, mais bon. Mais si, effectivement, il y a un avenir pour le tourisme chez nous et il sera d'autant plus
Puis de
important,
plus en plus, je
et bien
pense.
sûr, parce qu'aujourd'hui, aller sur la Côte d'Azur où il fait 50 degrés.
Oui, puis déjà,
Ça ne sera pas jouable. Et puis l'argent, bien sûr.
oui, parce qu'ici, quand même, quoi qu'on fasse, c'est moins cher.
Bien sûr. Mais on le voit bien depuis quelques années, hein, le
Ouais,
tourisme vert est en plein
ça marche
essor.
bien,
En plein
oui.
essor. Donc après, ben, il faut s'organiser pour mettre les produits touristiques en place et puis ensuite les faire connaître. Ça,
Voilà.
c'est aussi le nerf de la guerre. C'est qu'il faut que
Ben,
on fasse parler de nous à l'extérieur.
ça va être ton boulot,
Exactement, c'est pour
là.
ça. Je suis
C'est
là.
pour ça que tu es
Exactement.
dans la vidéo. Bon, on a fait un petit peu le tour, là. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Je sais
Oh,
pas.
je ne sais pas ce qu'on en a oublié de dire, mais des projets, il y en a toujours. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Moi,
Ouais.
j'ai une espèce de rêve. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai, c'est pas sûr. Mais tu vois, je me dis, Jean-Pierre, tu as vécu la même chose que moi. Cette expérience du monde de la radio qu'on a vécue,
Ouais.
on a eu une chance inouïe dans les années 80 de
Ah.
pouvoir faire de la radio et de pouvoir continuer à en faire aujourd'hui. Eh bien, je me dis que ça mériterait peut-être un jour de faire un film pour en parler, pour raconter notre
Ah,
histoire.
pourquoi pas? Il y
Parce
avait eu
que
le film sur les radios pirates, là,
Radio Caroline,
Radio Caroline,
oui,
voilà.
qui est très très bien d'ailleurs, hein.
Ouais. Et pourquoi pas? Oui, c'est vrai, parce que bon, la radio, comme on l'a fait nous actuellement, eh bien, a tendance à disparaître, hein, parce qu'on sait que c'est les grands groupes qui reprennent. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est vendre la publicité,
Bien
mais le
sûr,
reste,
bien sûr.
c'est Paris qui envoie tous les sons.
Mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de Radio Crapone, je la trouve très intéressante pour ça, parce que tu as su prendre le contre-pied de l'évolution des autres grands groupes,
Ouais.
justement, et Radio Crapone est toujours là.
Voilà.
Voilà, 40 ans après, cette radio est toujours là, et bien, moi, je trouve ça génial.
Ouais, on espère que ça va durer,
Bien
parce que c'est
sûr.
compliqué quand
Mais
même.
c'est sûr que c'est compliqué, mais il faut que ça dure, parce que quelque part, c'est de la vraie radio de
Voilà,
proximité.
c'est ce que
Et
je
il n'y en a
dis.
plus beaucoup.
Voilà. Et non,
Il n'y en a plus
on est sur
beaucoup.
le terrain. Voilà.
Exactement. Faut l'occuper.
Voilà, donc aujourd'hui, nous recevions Martial Portail, alors qu'il nous a parlé, bien sûr, de son entreprise qui vient de monter, Vidéo, son parcours très long en radio, puis maintenant, il s'est lancé un peu dans le train aussi, donc plusieurs cartes, plusieurs
Voilà.
cordes à ton arc. Hein.
Alors après, si quelqu'un veut aller voir mes vidéos,
Ouais.
vous tapez sur Internet TLF reportage, ça veut dire télé, livre d'Orforez reportage, et vous verrez tout ce que j'ai fait.
Très bien. Et puis, si vous avez envie, ben justement, de vous faire faire une vidéo pour votre entreprise, peut-être pour vous seulement, hein,
Ah, bien sûr,
particulier. Hein.
je suis ouvert à tous les projets.
Très bien. Eh bien, on va terminer cette émission en espérant qu'on va entendre longtemps encore siffler le train, hein,
Exactement.
avec Richard Anthony. Et merci d'avoir été avec nous. Salut Marcel.
Merci Jean-Pierre, merci à tous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Voilà, bien, cet invité du jeudi se termine. Martial Portail était notre invité. Il vous a parlé un peu de son parcours. Oui, carrément. Un homme de radio, un homme de vidéo maintenant, et puis en plus un homme des trains. Alors, je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Et vous la retrouvez, bien sûr, sur notre site. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, Martial. Merci et au revoir.
Merci Jean-Pierre. Au revoir.
There's a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is there someone Mack the knife from a tugboat by the river? A cement bags drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac he spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie's back in town.
Take it, Satch.